Salut François, ça va bien?
Ça va très bien, Dan, toi-même.
Oui, merci, ça va bien. J'en parlais dans mon intro tout à l'heure. On a appris ce matin, un peu avant 10 heures, le décès de Jean Pagé, survenu hier à l'âge de 73 ans. On le savait très malade. Il était en fin de vie et malheureusement, il est décédé. Jean Pagé, je ne sais pas quel souvenir toi, tu as du monsieur, de l'homme des médias, la soirée du hockey. Mais moi, il faut que je te raconte, puis probablement que le constat que je vais faire avec toi ce soir dans mon émission, c'est que j'ai complètement manqué ma vie au niveau professionnel. C'est qu'à l'époque où j'étais ticu et je voyais Jean Pagé le long de la patinoire, les lumières fermées dans l'aréna et qui nous souhaitait la bienvenue à la soirée du hockey de Radio-Canada, je me disais, plus tard, c'est cette job-là que j'aimerais avoir. Le problème, c'est que non seulement j'ai pas réussi, il n'y a plus de hockey à Radio-Canada, mais il n'y a même plus personne sur le bord de la bande, les lumières fermées dans l'amphithéâtre pour souhaiter la bienvenue aux gens. Ça fonctionne même plus comme ça. Fait que finalement, j'aurais pas réussi à faire ce que Jean Pagé faisait quand j'étais ticu, mais je trouvais que ça faisait crédible. Le monsieur avait de la prestance, puis je trouvais que ça lançait la soirée de hockey. Là.
Puis, ben, en fait, ça me ramène à deux choses. Premièrement, ce que tu mentionnes pour la soirée de hockey, parce que moi, je fais partie de cette génération-là. Jean Pagé, un peu avant, avec Lionel Duval, Gilles Tremblay, toute cette gang-là, moi, c'est mes souvenirs de veston bleu poudre, puis de samedi soir. Puis
Richard Garneau oui, aussi, est-ce que t'es trop jeune ou...
Non, je l'ai vu, okay. Je l'ai entendu et vu dans mes années quand j'étais plus jeune, mais oui, Richard Garneau, c'était un peu la sommité dans le domaine.
Exact.
Puis moi, j'aimais beaucoup, évidemment, le travail qu'on faisait, puis pour moi, ces gens-là, ils étaient tous très compétents dans ce qu'ils faisaient, puis on dirait qu'ils étaient tous dans la bonne chaise. Ça donnait un très, très bon spectacle pour le petit jeune que j'étais. Puis je dois te mentionner aussi que j'ai rencontré Jean Pagé dans les dernières années à TVA Sport parce qu'il faisait de la course automobile à un certain moment donné avec Bertrand Godin et quelques autres personnes. Puis à ce moment-là, M. Pagé avait eu des problèmes, il y avait déjà des problèmes de santé, de la médication faisant en sorte qu'il avait pris énormément de masse, de poids. Il était même difficile à reconnaître, mais il avait été d'une gentillesse. Il y a quelques mois, peut-être même l'année passée, il y avait eu un article dans le Journal de Québec en disant que il se savait déjà condamné, mais je trouvais que c'est quelqu'un qui avait une façon de voir les choses très, très positive en sachant très bien que la fin s'en venait et tout ça. Donc, je pense que ça nous attriste tous un peu. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que dans la façon dont il a fait les choses, il a pu se préparer, dire au revoir à tout le monde avant de partir. Donc, chapeau à Jean Pagé qui a eu une très, très, très belle carrière dans le monde dans le monde du sport.
Absolument.
Et dans le monde également des médias.
Oui, absolument, aucun doute. Très belle carrière. François, j'ai plusieurs sujets sportifs sur ma feuille, mais parce que tu es un tripeux de baseball, je vais commencer avec Steven Strasburg. Il a été le joueur par excellence de la Série mondiale. Et quand tu as appris sa signature de contrat hier, est-ce que tu as fait un lien entre le titre d'MVP et le montant qu'on lui a accordé?
Ben oui et non. Dans le sens où je pense que les Nationals étaient déjà intéressés à le ramener. Parce qu'il faut comprendre une chose dans le cas de Strasburg, c'est qu'il y avait une clause échappatoire. C'est-à-dire que son contrat n'était pas fini. Il s'est servi de sa clause pour sortir de son contrat pour aller chercher un nouveau contrat. Donc, il avait signé un contrat de 7 ans, 175 millions il y a quelques années. Puis, je pense que les Nationals savaient très bien qu'il allait sortir de son contrat. On s'était déjà préparé, mais ses performances en série et ses performances en série mondiale ont fait en sorte que tu savais qu'il allait passer à la caisse. Mais moi, ce qui me fait sourciller, c'est que le montant qu'on a donné, le 7 ans, 245 millions, c'est, semble-t-il, l'offre que les Yankees ont fait pour Gerrit Cole. Ça veut dire que si on vient de donner ça à Strasburg, Cole va aller chercher plus d'argent que ça, c'est sûr et certain. Il y en a même qui pensent que ça va devenir le premier lanceur de 300 millions. Il y a eu des joueurs de position, mais pas des lanceurs. Mais dans le cas de Strasburg, ça reste quand même un deal qui est dangereux. Là. Le gars, 31 ans, souvent blessé.
C'est ça.
Bon cette année.
Ouais.
Mais si tu m'avais donné le choix, là, comme directeur général des Nationals, je pense que j'aurais mis plus d'efforts pour amener Rendon au troisième but pour jouer à tous les jours que de donner 7 ans à Steven Strasburg.
Parce qu'en date d'aujourd'hui, tu parles de Cole qui pourrait briser le record, mais en date d'aujourd'hui, c'est le record. C'est 7 ans, 245 millions pour un lanceur, tant au niveau du montant que de la durée, ça n'avait jamais été égalé. 31 ans, 7 ans de contrat, tu viens d'en parler, mais moi j'avais une question pour toi concernant ça. Est-ce qu'encore une fois... Et je ferai un parallèle boiteux, si tu me permets, avec ce que Marc Messier avait signé comme contrat à l'époque où il s'est présenté avec les Canucks de Vancouver. Mais est-ce qu'encore une fois, François, on n'est pas dans un dossier où on paye le gars un peu plus pour ce qu'il a fait que pour ce qu'il va faire?
Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Je pense que dans ce genre de dossier-là, tu as la base de fans qui veulent absolument revoir Strasburg, qui a passé toute sa carrière, qui a été le joueur par excellence de la Série mondiale. Il y a beaucoup de pression pour l'organisation de ramener un joueur. Puis tu sais, si tu veux que le gars revienne, évidemment, il fallait que tu lui donnes plus que ses 25 millions qu'il gagnait annuellement. Là, il est aux alentours de 35. Puis il fallait également que tu lui donnes une durée. Puis c'est là qu'il dit que si on avait dit, tu sais, 3 ans, puis je sais pas, là, tu sais, 140 millions, on aurait mieux compris. Mais dans ce genre de situation-là, l'organisation a tellement de pression. Puis tu sais, Strasburg a une carrière particulière. Parce que tu te rappelles la première fois qu'il est monté sur un monticule dans le baseball majeur, 14 retraits au bâton, on se disait, ce gars-là va être le meilleur lanceur des 15 prochaines années.
Ouais.
Mais les blessures, les hauts et les bas, tu sais, c'est une très, très, très belle carrière. Qui sera peut-être pas à la hauteur d'un numéro 1 dominant qu'on avait vu en début de carrière, mais il n'y a aucun doute que c'est le genre de contrat que c'est un peu une récompense qu'on te donne, mais qui va venir probablement hanter les Nationals quand il aura 35, 36, 37 ans, parce que je peux pas croire que Strasburg va continuer à lancer de cette façon-là pendant 7 ans, et puis lancer à la hauteur d'un gars qui gagne 35 millions par année. Mais comme je te dis, je pense que l'organisation avait beaucoup de pression. Puis Mike Rizzo, DG, a dit c'est Strasburg ou Rendon. Donc, probablement que Rendon va signer ailleurs, puis lui aussi risque d'aller chercher énormément d'argent.
OK. Le Canadien est à Pittsburgh ce soir pour affronter les Pingouins. Et souviens-toi, quand le Canadien a repêché Alex Galchenyuk au troisième rang du repêchage de 2012, il arrivait de l'équipe de Sarnia et on disait les Oilers d'Edmonton ont pris Yakupov au rang 1, Ryan Murray au rang 2 par Columbus. Et on disait, le Canadien parle troisième, mais c'est une vraie joke. Il n'a pas joué de l'année, il a été blessé, il a joué 5-6 matchs en fin de saison, plus les séries. S'il avait joué toute l'année, il serait sorti premier. Galchenyuk est bien meilleur que Yakupov et Murray. Finalement, Yakupov et Murray, ça n'a pas été des grands choix de repêchage. Les meilleurs choix de cette année-là sont arrivés plus tard en première ronde. Mais Galchenyuk est rendu à 25 ans. Ça n'a pas fait à Montréal, ça n'a pas fait en Arizona et ça ne fait pas à Pittsburgh parce que son nom revient dans les rumeurs de transactions. Ça ajoute à ma théorie, finalement, que Trevor Timmons n'est pas si bon que ça. Là.
Mais tu l'as mentionné, ça a été une année un peu fade là, dans ce repêchage-là. Si tu ne me trompes pas, Dan, ça c'est l'année où plus loin tu avais eu Vasilevski puis une coupe de noms, là, dans les, plus loin dans cette année de repêchage-là.
Philippe Forsberg au rang 11, on se souvient de la transaction, c'était Martin Erat contre Philippe Forsberg?
Oui.
Donc, Philippe Forsberg avait été repêché par Washington, mais il fait carrière depuis ce temps-là à Nashville parce que les Capitals ont fait une drôle de transaction. Vasilevski, en fin de première ronde, ben 19e au total. C'est la bonne année, François. Ouais. Ta mémoire est bonne. Mais dans l'ensemble de la première ronde, là, si je pars de 30 puis je m'en viens vers 1, là, c'est Tanner Pearson, Stéphane Matteau, Brady Shea, Henrik Samuelsson, Brandon Gantz, avec Vancouver, Jordan Schmaltz, le frère de Nick avec les Blues, Malcolm Subban, Mike Matheson, c'est pas une grande année. Thomas Sertel au rang 17, c'est rare que les Sharks se repêchent bien, mais cette année-là, ils ont bien fait ça. Zemgus Jurgensen avec les Sabres de Buffalo, Cody Ceci à Ottawa, Grigorenko à Buffalo au rang 12. Ouais. C'est une année catastrophique, la 2012, là.
Ouais, puis moi, je me rappelle, tu sais, cette année-là, puis tu l'as mentionné, on savait pas mal les deux premiers qui allaient sortir. Puis là, le Canadien, un peu à l'image de ce qui s'est passé il y a 2 ans, là, avec Kotkaniemi, tu sais, que tu avais le choix numéro 3, puis on dirait que c'est là que la porte s'ouvre, là, que tu sais, t'as 6, 7, 8 candidats. Parce que je me rappelle de cette année-là de Griffin Reinhardt, qui était supposé devenir le défenseur défensif par excellence de la Ligue nationale. Puis je trouve qu'il est encore dans la Ligue américaine. Mais dans le cas de Galchenyuk, aucun doute, il y a un gros problème d'attitude. Parce que je te l'ai déjà dit, Dan, moi, quand on a fait la transaction Phil Kessel, je trouvais que les Pingouins pour Galchenyuk puis le jeune Joseph, pour un Kessel rendu dans la trentaine qui mange trop de hot dogs, je trouvais que les Pingouins avaient fait un bon coup. Mais je pense qu'à Pittsburgh, comme dans bien des organisations, quand tu endosses l'uniforme de cette équipe-là, il faut que tu te présentes à tous les soirs, que tu aies une attitude de gagnant. Quand ton capitaine, un gars comme Crosby, a gagné une coupe de coupe de Stanley, puis est capable de te donner des leçons quand il est en santé, je pense que les Pingouins n'aiment pas du tout l'attitude de Galchenyuk. Il y a les résultats, certainement. Il y a seulement 2 buts.
Ouais.
Mais il y a un petit quelque chose qui fonctionne pas. Puis je sais pas si tu te rappelles, à Montréal, la rumeur qui circulait, c'était que son père en prenait trop large,
oui,
tu sais, que il est sa patinoire le matin, on est tourné à gauche, il arrive à la maison le soir, puis son père dit non, tourne à droite,
oui.
Ça va aller mieux comme ça, puis ça avait fait partie des raisons pourquoi on l'avait échangé, puis juste, même pour te dire, moi, quand il y avait eu la transaction, avec Max Domi, j'étais pas emballé un pour un parce que, tu sais, Domi avait été vraiment très ordinaire en Arizona les deux dernières années. Je trouvais que Galchenyuk avait plus de potentiel. Mais aujourd'hui, même si Max Domi a une saison très ordinaire, faut quand même admettre que ça a été une bonne transaction pour le Canadien. Puis j'ai de la difficulté à blâmer Trevor Timmins parce que c'était vraiment une année difficile. Puis, tu sais, à partir de ce choix numéro 3, on avait tellement de possibilités que j'ai de la difficulté à le blâmer sur le choix de Galchenyuk.
Ouais, ça faisait mon affaire de lancer ça quand même dans la discussion, tu comprends? Je prends tous les arguments qui peuvent m'avantager, tu sais. Mais, OK, là, on vient de parler de Galchenyuk. Tu as fait référence à la transaction Domi-Galchenyuk. Parlons un peu de la transaction Weber-Subban, si tu me permets. Il y a la première page du Journal de Québec ce matin, Subban en arrache. Les gens qui font les poules d'hockey sont au courant. Ça fait quelques semaines déjà que Subban en arrache. Il y a 5 points en 29 matchs. Souviens-toi qu'on a fait la transaction. Fin juin, la bombe sort. Subban est échangé au Prédateur contre Shea Weber, un pour un. Moi, je faisais partie des gens qui trouvaient qu'à cette époque-là, c'était une très bonne transaction pour le Canadien. Et souviens-toi des arguments, François, mentionnés la journée, le lendemain et le surlendemain de la transaction. À court et à moyen terme, le Canadien gagne, mais sur le long terme, c'est évidemment les Prédateurs qui vont gagner parce que Subban est 4 ans plus jeune. C'est certain que sur une longue période, c'est les Prédateurs qui vont gagner. Et finalement, ils ne gagneront même pas sa longue période.
Ben, ils vont gagner quand même un peu côté masse salariale, par exemple.
En parce se libérant que du contrat de Weber, OK.
De Weber, et ensuite en réussissant à refiler le contrat de Subban. Tu sais, l'année passée, quand Subban était sur le marché, il y a plusieurs équipes qui ont levé la main, mais en disant, nous, si on accepte le contrat, tu sais, on ne paiera pas une fortune non plus. Puis le prix payé par les Devils était quand même relativement modéré. Mais ce que je trouve intéressant dans le cas de Subban, puis tu sais, c'est les arguments qu'on amène depuis quelques jours, voire quelques semaines, c'est que Subban, semble-t-il, est un gars tellement occupé hors de la patinoire. Évidemment, il y a sa conjointe, Lynn Zevon, qui emmène assez large. C'est un gars qui est impliqué dans toutes sortes de causes. Évidemment, la plupart sont des très bonnes causes, puis on le félicite de s'en occuper. Oui. Mais il y a un journaliste au New Jersey qui l'a planté la semaine dernière en disant que c'était devenu ridicule, là. Il devrait même amener son téléphone sur le banc parce qu'il y a tellement de choses à gérer qu'il aurait besoin des 3 heures de match pour continuer à gérer ses choses. Okay. C'est devenu un peu problématique. Puis je te dirais, là, Dan, puis je fais juste un petit parallèle, tu vas voir, je pense aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être même les prochaines années, qu'il va y avoir un certain contrôle de ce que font les joueurs à l'extérieur de la patinoire parce que là, les plus jeunes, tu as des problèmes avec les jeux vidéo. Fortnite, il y a des joueurs qui jouent toute la nuit à Fortnite en groupe puis qui sont pas prêts le lendemain pour s'entraîner, qui sont encore moins prêts pour un match. On passe des nuits blanches à jouer à des jeux vidéo. Subban, c'est le contraire. C'est pas le même genre de distraction, mais il met pas ses efforts à la bonne place. Puis écoute, au prix qu'on le paye, avec les attentes qu'on avait envers lui, jusqu'ici, c'est une saison désastreuse. Je sais pas si Alain Nasreddine va réussir à le remettre sur le droit chemin, mais je pense que de toute façon, les Devils, il y a un petit ménage qui s'en vient de pas juste Taylor Hall. Il y a probablement 2-3 gars qui vont partir d'ici la date limite.
Il gagne 9 millions par année et j'ai regardé son contrat ce matin, je te pose la question. C'est pas une question piège, je t'ai pas la réponse, c'est vraiment pas grave, mais moi j'ai été surpris un peu de la réponse. Tu penses qu'il reste combien d'années à son contrat, François?
Écoute, de ma mémoire, il avait signé 8 ans, 72 millions, enfin je dirais à peu près la moitié.
C'est ça, il reste 7 années et 2 autres saisons. Je pensais qu'il en restait plus, moi j'étais comme toi. Okay. Je pensais qu'il restait un 4 ans au total, mais c'est 7 années et 2 autres saisons pour le contrat de Piqué Subban à 9 millions par année avec les Devils. Un mot avant de te laisser. Oui, vas-y, tu peux compléter.
Je te pose une question en quelques secondes. Oui. Si New Jersey t'offrait Subban pour Weber demain matin, tu le ferais-tu? Question de contrat. On dirait que tu n'aurais pas encaissé, parce que Weber, ça l'amène jusqu'à 41 ans. Je me suis posé la question, c'est si on offrait Subban aux Canadiens pour Weber un pour un, je sais pas si on le ferait pas question de, tu sais, tu veux pas mal paraître de refaire une transaction à l'envers.
Non.
Mais on y penserait
au-delà
quand même.
Au-delà du principe, là.
Ouais.
Je pense pas que je le ferais. Moi, je faisais partie des gens qui le trouvaient trop dérangeant à Subban et il y en a d'autres qui vont dire, ben non, c'est lui qui a aidé à vendre des billets. Je comprends. Mais à un moment donné, tu sais, le pur sang, l'expression pur sang, le gars à l'hippodrome, quand il ouvre la barrière, à l'époque où on avait l'hippodrome ici à Québec puis il y avait des courses de chevaux, le gars qui part, puis qui fait le tour, puis peu importe la façon dont il fait le tour, pour moi, c'est un peu ça, Piqué Subban. Il joue au hockey un peu trop à sa façon. J'ai de la misère à comprendre qu'il peut entrer dans un concept d'équipe, tant dans le vestiaire que dans une séance d'entraînement, que dans un système de jeu. J'ai jamais été un grand fan de Piqué Subban, le joueur de hockey. J'ai toujours été un grand fan de Piqué Subban, entertainment. Mais le joueur de hockey, j'ai jamais été un grand fan. Avant de te laisser, je veux te parler de Darcy Kuemper, qui est le gardien des Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes continuent de bien aller. C'est un gardien qui est passé un peu sous le radar, toujours deuxième gardien au Minnesota, à Los Angeles. Est-ce que tu dirais que c'est le Devin Dubnyk des temps modernes, un gardien, souviens-toi de Dubnyk, ignoré, échangé aux Canadiens, on l'envoie à Hamilton, puis après ça, transaction mineure au Minnesota, puis il devient le gardien numéro un pendant 5-6 ans là-bas. Penses-tu que Cooper a les atouts pour devenir le Dubnyk des temps modernes?
Je pense que oui, moi. Je pense que oui, puis l'exemple est très bon avec Dubnyk, parce que je me rappelle quand le Canadien a fait son acquisition, c'était juste une police d'assurance, on l'avait envoyé à Hamilton, puis elle se dit, ce gars-là, c'est une carrière catastrophique pour un choix de première ronde, puis après ça, écoute, il y a eu une très belle carrière. Je sais que Dubnyk a des petits problèmes personnels, là, parce que sa femme a des problèmes de santé, donc c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais moi, quand les Coyotes avaient même été chercher Kemper, il était avec les Kings à l'époque, je pensais vraiment que c'était pour dire on a besoin d'un numéro 2 puis quelqu'un qui va garder les buts 12 à 15 fois par année. Je suis vraiment, vraiment, vraiment impressionné par ce qu'il fait depuis pas juste le début de la saison, parce que depuis 2 ou 3 ans, il a quand même été très bon.
Ouais.
Puis là, cette année, sauf erreur, sa moyenne est en bas de 2. C'est un des meilleurs pour le pourcentage d'efficacité. Je pense qu'il profite un petit peu du système des Coyotes qui semble, tu sais, jouer un petit peu plus serré puis accorder moins d'occasions. Mais c'est vraiment une très, très belle histoire. Puis c'est le genre de gars qui peut faire en sorte que non seulement les Coyotes vont participer aux séries, mais ils pourraient peut-être surprendre lorsque les séries vont commencer. Il doit être rendu à quoi, 28, 29 ans? C'est un gars qui approche de la trentaine, qui a pris du temps avant de prendre son élan, mais qui est devenu, en tout cas depuis 1 ou 2 années, un des très bons gardiens, mais un des très bons gardiens dans l'ombre dans la Ligue nationale de hockey.
Absolument. T'as tout à fait raison. C'est le genre de gars qui, une fois qu'il a saisi sa chance, peut être très difficile à battre. Cooper est âgé de 29 ans actuellement. Gros merci, François.
Salut, bonne journée.
Bonne soirée à toi. François Paquette, chroniqueur sportif, à qui on parle chaque mardi dans l'avant-match.